carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Marianne Durand-Lacaze.
Petit portrait, grand personnage, c'est le titre de l'exposition du musée Condé de Chantilly, ouverte depuis le 19 septembre dernier. Les conservateurs du musée ont extrait cette fois, pour les présenter au public, quelques 300 miniatures de la prestigieuse collection du duc d'Aumale. Ces portraits en miniature ne s'offraient en leur temps qu'au regard des proches et des intimes. Ils étaient transportables par leur petite dimension comparée aux portraits en grand. On les amenait ainsi en voyage, on les portait en pendentif pour se rappeler les êtres chers. Nicole Garnier, conservateur en chef du patrimoine et commissaire de l'exposition, est avec nous pour nous présenter l'art si particulier de ces portraits de consolation et pour tourner la page de cet immense album de famille qui rassemble les portraits des descendants de la maison de Bourbon, des branches des Bourbon-Condé, des Bourbon-Conti et des Bourbon-Sicile. Vous pourrez vous amuser à reconnaître les portraits de tous les rois de France, mais surtout vous quitterez le château de Chantilly, conquis par cet art minutieux qui offre aux visiteurs l'image intime de ces grands personnages. Loin des portraits officiels des souverains ou de leur image publique, on y décèle une attitude plus libre, une émotion, un regard personnel qui s'adressait au destinataire du portrait, comme il s'adresse à vous aujourd'hui des siècles plus tard. Nicole Garnier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes venue nous présenter l'album personnel de la famille du duc d'Aumale, en quelque sorte, puisque ses portraits intimes sont ceux de ses ancêtres et ceux de la famille de son épouse, Marie-Caroline de Bourbon-Sicile, auxquels on peut ajouter ceux qu'il avait achetés pour constituer sa collection. Mais tout d'abord, pour commencer, à quoi correspond l'art de la miniature ?
Alors, l'art de la miniature, c'est un art intime, c'est un art affectif. Ce sont des petits portraits en général. La majorité de ces miniatures représentent des personnages proches de celui qui les fait faire en général. Et ces petites peintures peuvent s'inspirer d'ailleurs de grands tableaux. Mais ils présentent toujours le personnage d'une façon un petit peu plus libre, un petit peu plus affective, puisque ces objets ne sont pas destinés à être accrochés au mur et à être vus de tous. Donc on est loin des portraits un peu hiératiques et conventionnels qu'on peut trouver dans nos musées. C'est quelque chose qu'on s'offre, qu'on échange entre amoureux, entre amants, entre fiancés, entre mari et femme, surtout lorsqu'il y a une séparation, la guerre parfois. C'est un objet donc très intime et lié en fait au souvenir de la personne qui va être véhiculé par ce petit portrait qu'on va pouvoir emmener avec soi.
À quand remonte cet art ?
Alors on peut dater l'apparition de la miniature en fait au XVIe siècle, car l'art de la miniature découle de l'art de l'enluminure médiévale. D'ailleurs les techniques et le nom même vient de l'enluminure médiévale. Le terme de miniature à l'origine ne signifie pas petit comme on pourrait s'imaginer. Il vient du terme mine ou minium, qui est donc une technique aqueuse proche de l'aquarelle ou de la gouache, avec laquelle les enlumineurs médiévaux mettaient en teinte leurs dessins qui étaient dans les livres, au temps où les livres ne s'imprimaient pas, mais se dessinaient et se peignaient. Et c'est à partir de ce mot de mine ou minium qu'on va parler de miniature pour désigner le petit portrait. Par la suite, évidemment, il signifiera un objet de petite dimension, puisque nos miniatures sont le plus souvent très petites. Je crois que la plus petite miniature de l'exposition, qui est un portrait du roi Louis-Philippe, fait moins d'un centimètre carré. Mais il y en a aussi très grandes. Oui. Il y a entre autres des portraits du XVIe siècle des rois de France, François Ier, Henri II, Henri III, qui sont de vraies enluminures sur parchemin et qui relèvent de cette technique de l'enluminure médiévale. Donc on est dans le droit fil d'une tradition ancienne. On commence donc au XVIe siècle, mais notre collection va évidemment connaître ses plus beaux jours sous les XVIIe et XVIIIe siècles et durer bien évidemment jusqu'à la fin du XIXe siècle. En fait, ce qui marquera...
Qu'est-ce qui a été fatal à l'art de la miniature ?
Eh bien, c'est l'apparition de la photographie, bien sûr, qui va permettre, à partir de 1839, mais surtout pour les photographies de petite dimension qui n'apparaissent que dans la deuxième moitié du siècle, donc cette apparition de la photographie va permettre de reproduire les portraits des personnages de façon plus fiable, plus juste, plus rapide aussi et moins coûteuse. Donc la photographie va entraîner à terme, très rapidement, la disparition de la miniature après 1875-1880, lorsque vont apparaître les photographies dites cartes de visite, qui sont des photographies de petite dimension.
Alors quels étaient les supports utilisés ?
Alors ils sont très variés. On a parlé bien sûr du parchemin, dans le droit fil de l'enluminure médiévale, mais à partir du XVIIe siècle surtout, on va connaître un grand développement de la miniature sur émail. Donc une technique particulièrement difficile à mettre en œuvre, puisque l'artiste travaille avec des pigments qui vont être cuits, Et avant cuisson, ils ne présentent pas les teintes qu'ils auront avant cuisson. Voilà. Donc c'est tout un travail intellectuel de conception de l'œuvre.
Mmh. Évidemment. Et c'est la surprise au final quand on ouvre le four.
J'espère que c'est pas la surprise. Je crois que l'artiste savait au départ ce qu'il voulait donner comme effet. Mais c'est vrai qu'il y a quand même une part d'interprétation et une part de technique que l'artiste peut ne pas maîtriser, c'est vrai. Donc là, on est dans le droit fil de l'art des grands émaillistes du XVIe siècle. Je pense évidemment à Léonard Limousin, qui sont remarquablement représentés dans nos collections et présents dans l'exposition, bien sûr. Et à partir de l'émail, donc, va se développer toute une technique du portrait de cour, notamment au XVIIe siècle. Parmi nos émaux du XVIIe, on a entre autres un portrait de la grande mademoiselle, la cousine du roi Louis XIV, qui est une Orléans, bien sûr, donc qui est une ancêtre du duc d'Aumale, qui porte le même nom, en tout cas. Et donc, la grande mademoiselle, nous avons d'elle un portrait à l'émail qui porte au revers les armes de la princesse. C'est assez fréquent d'avoir des revers émaillés qui portent des armes ou des inscriptions. Et puis bien sûr, nous avons énormément de miniatures de Jean Petitot. Jean Petitot qui est le grand émailliste du siècle de Louis XIV, qui est un artiste d'origine suisse, qui vient se fixer en France à la cour du roi Louis XIV et qui va réaliser le plus grand nombre des portraits à l'émail du roi. Alors on a des portraits à l'antique, des portraits du roi cuirassé, des portraits du roi jeune, des portraits du roi plus âgé. Enfin, c'est vraiment le grand représentant du portrait en émail à la cour de Louis XIV.
Alors, il va y avoir d'autres supports et puis d'autres modes qui vont être introduits.
Notamment, à partir de 1721, c'est très précis, la pastelliste Rosalba Carriera, grande pastelliste italienne bien connue, va venir en France et elle va introduire avec elle, outre le développement de l'art du pastel, eh bien, la technique du portrait miniature sur ivoire. En effet, c'est une technique qui nous vient de Suisse et d'Italie du Nord et qui va se développer en France uniquement après le voyage en France de Rosalba Carriera en 1721. Nous avons d'ailleurs dans l'exposition une superbe miniature d'un guerrier, d'un jeune seigneur en cuirasse, malheureusement anonyme, par Rosalba Carriera, qui est un grand chef-d'œuvre de l'art de la miniature tel que Rosalba a su l'introduire en France.
Alors quel est l'intérêt justement du support de l'ivoire ?
Alors c'est un support particulièrement intéressant.
Se peindre sur l'ivoire, ça réclame de la virtuosité, mais aussi toute une technique et puis ça a des effets que vous allez nous décrire.
Tout à fait, la plaque d'ivoire elle est extrêmement fine, voilà. Quelquefois ça va être quelques millimètres à peine de plaque d'ivoire qui va être donc débitée. Et cette plaque d'ivoire elle va donc être translucide, donc elle va laisser passer la lumière. Et le miniaturiste, bien souvent, va se servir de cette translucidité de la miniature, de la plaque d'ivoire, pour laisser les chairs en fait à nu. Il ne va pas les traiter ou à peine les recouvrir d'aquarelle. Et donc c'est la couleur naturelle de l'ivoire, un petit peu teintée quelquefois de rose, quelquefois de jaune, qui va rendre les carnations pour le visage et les mains du personnage. Et en revanche, les vêtements et le fond vont être, eux, couverts de couleurs plus accrues, souvent à la gouache. Alors quelquefois, on va accentuer aussi cet effet de translucidité en plaçant au revers de la plaque d'ivoire ce qu'on appelle des paillons, c'est-à-dire une plaque métallique, en général d'argent, qui va accrocher la lumière, qui va attirer donc la lumière à travers la plaque d'ivoire.
Or, quand on les voit, on a même l'impression comme un vernis.
Alors certaines étaient vernies, les premières miniatures sur ivoire qui ont été réalisées en France, donc au début du XVIIIe siècle, l'étaient. Parce qu'on cherchait aussi à évoquer ce qu'on connaissait des miniatures précédentes, c'est-à-dire l'émail qui a un aspect brillant, ou des miniatures peintes, par exemple sur cuivre, car c'est aussi une technique possible pour la miniature, qu'on recouvre alors de vernis.
Et effectivement, la peau des personnages, des visages, ressort de façon très très frappante dès qu'on les regarde. Comment on peignait les artistes sur ces miniatures, justement ?
Alors, ils peignaient, on le présente d'ailleurs dans l'exposition, avec ce qu'on appelle une boîte de miniaturiste. Donc, c'est une sorte de petit appareil en bois.
Alors,
avec
effectivement,
une loupe.
Vous avez organisé toute une vitrine. C'est très pédagogique. On voit
tant
justement
mieux.
L'artiste au travail. C'est un mannequin, mais on voit sa boîte.
C'est pas un mannequin, c'est une photo en trois dimensions, qui nous montre un personnage réel en train de peindre devant une boîte de miniaturistes qui est physiquement présentée. C'est une boîte de miniaturistes du 19e siècle qui vient d'une collection privée qui nous a été prêtée pour l'exposition temporaire. Et il en a été réalisé par le musée de la miniature de Montélimar qui nous l'a prêté. Une photo de grande dimension, en trois dimensions particulièrement, qui nous permet de voir le miniaturiste devant cette boîte, donc qui est composée d'une première plaque de bois dans laquelle se trouve une loupe. Et donc, il va peindre sur sa plaque d'ivoire qui est située derrière la loupe, à travers donc ce petit miroir agrandissant qui lui permet donc de reproduire à la bonne échelle les traits du personnage qui est en face de lui ou de l'œuvre qu'il reproduit. Car quelquefois, le miniaturiste ne travaille pas sur le modèle, devant le modèle vivant, mais peut aussi travailler d'après une photographie au XIXe siècle ou travailler d'après des portraits de plus grande dimension, au dessin, au pastel ou à l'huile, bien évidemment.
Alors, il procédait par petites touches.
Oui, alors avec un tout petit pinceau, on en présente un dans l'exposition, c'est quelques poils de pinceau. Et donc, il faut particulièrement veiller à bien fixer les couleurs quand on travaille sur l'ivoire, qui n'est pas un matériau facile à travailler, car les matériaux n'accrochent pas. Donc, on doit utiliser différents supports techniques pour diluer l'aquarelle et la gouache. C'est ce qui est montré dans l'exposition, dans la vitrine consacrée à l'artiste au travail.
Alors, est-ce qu'on représentait autre chose que des portraits sur ces miniatures ?
Ça peut arriver, oui, même si la grande majorité des miniatures que nous avons à Chantilly, comme la plupart des collections, sont des portraits, on peut aussi représenter d'autres sujets, en particulier des sujets amoureux, car la miniature est souvent un objet qu'on échange entre amants, entre mari et femme, entre fiancés le plus souvent. Donc des sujets liés à l'amour en général, souvent tirés de la mythologie, c'est fréquent, on en a dans l'exposition. Ce peut être aussi des sujets tirés de représentations de paysages ou de lieux qu'on aimait. Toujours ce côté affectif et personnel de la miniature. Par exemple, nous avons dans la collection un presse-papier qui nous vient du duc d'Aumale et qui représente les lieux qu'il a aimés et où il a vécu. Particulièrement le château de Neuilly, qui était le château de son enfance, où il a vécu avec ses 8 frères et sœurs, où il a appris à nager, où il a vécu des moments heureux dans la campagne, en famille. Ça peut être aussi le Palais Royal, résidence parisienne des Orléans, où il a vécu, où il a grandi. C'était aussi bien sûr la résidence de l'exil, Twickenham, puisqu'il a vécu 23 ans exilé, de 1848 à 1871, donc une bonne partie de son existence, et l'endroit aussi où il a collectionné la majeure partie des collections qui sont aujourd'hui à Chantilly, bien sûr.
Et il en avait aussi, je crois, dans sa chambre, à son chevet.
Il en avait dans sa chambre, à son chevet, le duc de Bourbon aussi en avait. Enfin, c'était une tradition d'en avoir près de soi, puisque ce sont des objets personnels et affectifs qu'on n'accroche pas au mur, mais qu'on conserve près de soi, voire dans sa poche.
Alors, la miniature, c'est donc cet objet intime que vous venez d'évoquer.
Alors, ça peut revêtir différentes fonctions.
Voilà,
ça peut être tantôt un bijou.
Oui.
Les dames portent fréquemment un médaillon autour du cou avec le portrait d'un être cher. Ça peut être un parent décédé, bien sûr. On a des portraits de Marie-Amélie, par exemple. La reine Marie-Amélie âgée portant autour du cou le médaillon du roi Louis-Philippe, son mari, pour qui elle avait une immense tendresse et qui est mort longtemps avant elle, puisqu'ils avaient une grosse différence d'âge, et donc elle portait toujours le médaillon de son mari autour du cou. Ça, c'est une tradition très fréquente. Ça peut être donc un bijou, on l'a dit, ça peut être sur un bracelet également, un portrait fixé qu'on peut ainsi regarder et avoir près de soi. C'est le cas du bracelet de la Duchesse d'Aumale, qui est un merveilleux bijou en or, un petit peu en forme de serpent, un bijou articulé en quelque sorte, avec le portrait de la princesse qui figure sur le dessus du bracelet. Ça peut être un chaton de bague, car ces miniatures sont vraiment très petites. C'est le cas du portrait de Louis-Philippe, jeune, que nous avons, qui mesure moins d'un centimètre carré et qui, à l'origine, figurait sur un chaton de bague. On a aussi, de la sorte, le portrait du duc et de la Duchesse de Penthièvre, qui sont les ancêtres en ligne directe du duc d'Aumale, ses arrière-arrière-grands-parents. Donc bijoux bien sûr, mais quelquefois des objets un petit peu plus inattendus. Ça peut être des boîtes. Les dames au XVIIIe siècle, la grande époque de la miniature tout de même, les dames avaient fréquemment près d'elles des boîtes à mouches. Et donc sur ces boîtes à mouches, elles avaient souvent des portraits. Alors on présente dans l'exposition deux dessins de Carmontel,
ce
dessinateur très charmant qui travaillait à la cour des Orléans. Et Carmontel donc nous montre ces jolies dames avec leur robe à panier, leur robe à soirée
de profil,
à ramage.
Comme
et elles admirent une petite boîte qu'elles ont dans la main. Alors évidemment, elles ne regardent pas ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte, mais le portrait qui est présenté sur la partie supérieure de ces boîtes. Donc des boîtes souvenirs, des boîtes qu'on glisse dans sa poche et qu'on peut sortir de...
On pouvait aussi donc les mettre sur des boîtes, sur les tabatières.
Oui,
et là,
pour les
même si c'était pour un usage personnel, ça permettait aussi de montrer, puisqu'on ouvrait cette boîte, au moins à ses amis, à ses proches.
Tout à fait, la tabatière, c'est effectivement le principal support de miniatures pour les messieurs. Ça peut être aussi des presse-papiers.
Oui.
On en a un très grand nombre dans la collection. Je citais celui du duc d'Aumale tout à l'heure, mais on en a d'assez grandes dimensions qui présentent alors plus souvent des lieux ou quelquefois des visages, aussi parfois des portraits. Ça peut être aussi des très grandes boîtes. Alors en particulier, on a une boîte très amusante. Quand on évoque le terme de miniature, on s'attend toujours à ce que l'objet soit petit. On a une boîte qui fait une trentaine de centimètres au carré, qui est en malachite verte, donc un matériau très précieux, puisque la miniature est toujours un objet d'art très précieux. Et cette boîte, elle a été offerte par la sœur du roi Louis-Philippe, Madame Adélaïde, au dernier prince de Condé, le duc de Bourbon, le prince qui allait donc léguer au duc d'Aumale à cet enfant de 8 ans son domaine de Chantilly au moment de sa mort en 1830. Et cette boîte a été offerte par la princesse à son cousin au moment où tous deux étaient parrain et marraine du jeune Henri d'Orléans, le duc d'Aumale précisément.
Alors, qu'est-ce qu'il y a sur cette boîte ?
Alors, sur cette boîte, on a 11 petits portraits qui représentent le roi Louis-Philippe, la reine Marie-Amélie, Madame Adélaïde, la donatrice de la boîte et la sœur du roi, et puis les portraits des 8 enfants aînés du roi et de la reine.
Et puis il y a écrit quelque chose, je crois, tout autour.
Alors non, c'est pas sur cette boîte-là, il n'y a pas d'inscription sur cette boîte-ci qui, lorsqu'on l'ouvre, joue simplement l'air du jeune Henri, puisqu'elle a été réalisée au moment du baptême d'Henri d'Orléans. Oui. Mais la boîte à laquelle vous faites allusion, qui est présentée dans la même vitrine d'ailleurs, c'est une boîte qui nous vient des Bourbons-Sicile et qui comporte, outre le portrait des membres de la famille, donc qui sont les parents de la duchesse d'Aumale, eh bien, il y a une inscription qui dit « Nos cœurs et nos pensées sont à vous ». Il est assez fréquent d'avoir ce type d'inscription sur les souvenirs en miniature. Entre autres, on a dans l'exposition...
Il y en a de très belles concernant
on a
les
très jolies choses. Qui
les
est
amoureux.
On a le carnet de bal de la duchesse d'Aumale, probablement. Et elle présente donc le portrait d'une de ses sœurs et de sa mère sur chacune des faces. Et c'est un carnet de bal. Et sur la partie supérieure de la boîte qui est émaillée, qui est bleue, qui est magnifique, avec un encadrement d'or, il y a marqué « Souvenir ».
Alors, ces miniatures sont aussi accompagnées de motifs en cheveux, ce qui est très surprenant pour le visiteur.
Alors ça, c'est quelque chose de très particulier au XIXe siècle, hein, je dirais. On voit apparaître cela à l'extrême fin du XVIIIe siècle et souvent, effectivement, lorsqu'on on a le portrait d'un être cher, eh bien, on va glisser dans le médaillon qui contient la miniature. En général, la miniature est recouverte d'un verre bombé qui protège la petite peinture du contact puisque c'est un objet qui va dans la poche le plus souvent. Et donc, au revers, souvent, on a une mèche de cheveux. Quelquefois, ces cheveux vont, surtout dans la première moitié du XIXe siècle, revêtir un aspect particulièrement décoratif, avec quelquefois des décors géométriques. Les cheveux vont être tressés à l'arrière du médaillon, s'accompagner d'inscriptions, voire quelquefois jouer un rôle symbolique, puisqu'en général, ils sont pris sur la personne chère dont on a le portrait représenté sur la miniature. On a dans l'exposition, entre autres, un objet très particulier, qui est probablement un cadeau de fiançailles, fait par la future reine Marie-Amélie à son époux, le roi Louis-Philippe. C'est un grand médaillon en forme de cœur.
Ah oui, il est très, très beau.
Donc le cœur, évidemment, symbolique de l'amour. Au centre du cœur, on a le petit portrait en miniature de la reine Marie-Amélie jeune. Et tout autour, on a comme des rayons de soleil qui sont dessinés donc par des mèches de ses cheveux qui sont tendues sur le cadre doré qui est en forme de cœur. Et puis au revers, on a encore un motif de cheveux tressés et une inscription peinte. Vous le possédez. Vous le possédez, bien sûr, mon cœur. Donc il est assez fréquent d'avoir ce type de décor. Et le cheveu, c'est quelque chose qui avait vraiment une valeur symbolique. C'est évidemment une partie de la personne qu'on veut honorer et dont on est proche. Une partie de cette personne qu'on va emmener avec soi, sur soi, dans sa poche, sur un bijou qu'on porte sur sa personne.
C'était assez fréquent.
Il y a eu aussi, dans la deuxième moitié du 19e siècle, au milieu du 19e siècle plutôt, un art du bijou en cheveux, notamment un art mortuaire du cheveu qui s'est développé lorsqu'on perdait quelqu'un. Et bien, on portait non pas des bijoux en or, non pas des bijoux en matière précieuse, mais des bijoux en cheveux en général noirs qui étaient tressés. Il y avait des artisans en cheveux qui les fabriquaient, qui pratiquaient donc cet art qui était vraiment très spécialisé. Donc on a énormément de miniatures qui relève de cette technique très particulière.
Ah oui, c'est très surprenant parce que si on ne sait pas que ce sont des cheveux, au début, on se demande ce que c'est. On voit que c'est très fin, surtout quand les mèches sont d'un blond doré.
Alors souvent, elles le sont par décoloration aujourd'hui. Ces miniatures sont fréquemment des souvenirs de deuil. On l'a dit, le duc d'Aumale conservait entre autres dans sa chambre à coucher au château de Chantilly, dont nous les avons extraites pour la durée de l'exposition temporaire, 4 portraits qu'il accrochait de chaque côté de sa cheminée et qui sont les portraits de ses parents, le roi Louis-Philippe, la reine Marie-Émilie, sa mère qui était bien évidemment décédée au moment où il revient s'installer à Chantilly après 1871. Et en dessous de leur portrait, on a une mèche de cheveux. De la même façon, il conserve le portrait de son frère aîné qui était un personnage très important pour lui, Ferdinand, duc d'Orléans, qu'on appelait le prince royal, qui devait succéder donc à son père, le roi Louis-Philippe, mais qui est mort très jeune, accidentellement, en 1842, à l'âge de 32 ans, d'un accident de voiture à cheval, près de la porte Champéret à Paris, en se rendant au château de Neuilly. Et donc, le roi Louis-Philippe avait là aussi le portrait de son frère décédé jeune, avec cette mèche de cheveux. Il avait aussi celui de sa sœur Marie d'Orléans, princesse romantique, princesse sculpteur aussi, puisque Marie d'Orléans a eu un atelier aux Tuileries qu'elle a fait beaucoup pour développer l'art néo-gothique. Nous allions d'ailleurs lui consacrer, à partir du printemps 2008, une exposition en tant que sculpteur et en tant que, justement, artiste proche de cet art néo-gothique qui va se développer dans les années 1830. Cette jeune femme, elle est morte à 25 ans, de phtisie, comme on disait alors, de tuberculose. Et là encore, le duc d'Aumale a son portrait, qui est un portrait en réduction d'un grand tableau de Schaeffer que nous avons dans nos collections. Mais je suppose que tous les membres de la famille d'Orléans, au moment où la princesse est morte, tous les frères et sœurs, les parents, ont dû avoir chacun un médaillon de la princesse. Et là encore, il y a une mèche de ses cheveux en dessous. Donc c'est souvent un souvenir mortuaire, ne nous le cachons pas.
C'était des objets de luxe. Comment étaient-ils considérés à l'époque, en dehors des familles royales qui possédaient ces miniatures, dans les autres...
Ce sont des objets précieux, ce sont des objets qu'on conserve, qu'on peut déjà mettre en vitrine dès le XVIIIe siècle. On le sait par un texte de Karl Vernet, donc le peintre qui travaillait pour la cour des Orléans à la fin du XVIIIe siècle. Lorsqu'il se rend chez le duc d'Orléans, eh bien, on l'introduit dans un salon où il y aura des vitrines tapissées de miniatures et de cannes. Donc ça fait partie des petits objets précieux qu'on met en vitrine et qu'on conserve. Mais le plus souvent, on les a aussi sur soi. Et ces petits objets, ils vont essentiellement se développer au XIXe siècle comme objets de vitrine avec les petites boîtes, les petites tabatières, les petits souvenirs qu'on va s'offrir. Ça peut avoir aussi des fonctions diplomatiques, hein, dès le XVIe siècle. Je pense en particulier aux mariages arrangés. Il est fréquent qu'il y ait des mariages arrangés lorsque un jeune prince, une jeune princesse va épouser donc quelqu'un d'une cour lointaine, on ne s'est jamais vu. Et donc très souvent, les parents ou le fiancé ou la fiancée vont demander des portraits du futur époux, de la future épouse. Et c'est ainsi qu'on découvrira le plus souvent le portrait, quelquefois un peu en mille, il faut bien le dire, de son futur conjoint. On a en particulier le portrait très célèbre du duc d'Alençon, donc le fils d'Henri II et de Catherine de Médicis, qui devait épouser la reine Élisabeth Ière d'Angleterre. Et la reine, celle qu'on appelait la reine vierge, qui a fini par ne jamais se marier en fait, eh bien voulait, au moment où il était question pour elle d'épouser ce jeune homme, il était beaucoup plus jeune qu'elle, voir le portrait du jeune homme de façon à voir s'il était assez beau pour elle. D'autant que l'histoire raconte que le jeune prince avait subi les atteintes de la petite vérole. D'après la miniature que vous verrez à Chantilly, eh bien, le prince avait quand même très bel aspect physique, mais néanmoins la reine a refusé de se marier.
Canal Académie vous invite à découvrir René Lalique et ses bijoux d'exception 1890-1912. C'est le titre d'une exposition que l'on pouvait admirer au Musée du Luxembourg à Paris en été 2007 et ensuite à Berlin au Bruegel Museum. Canal Académie vous propose deux émissions, l'une en français, l'autre en allemand. Entrons dans le monde féerique des créations des bijoux d'exception du grand maître joaillier et du maître verrier de l'art nouveau, René Lalique. Maintenant sur Canal Académie.
Alors, ces miniatures étaient fragiles quand même.
Oui, elles sont fragiles du fait de leur technique. Elles sont réalisées à l'aquarelle, à la gouache, qui sont des matériaux peu stables, qui peuvent souffrir des atteintes de la lumière. Donc, les normes internationales de conservation aujourd'hui, c'est de les exposer à 50 lux pendant 3 mois et ensuite de les ranger au noir, dans la pénombre du cabinet des dessins, le plus souvent. Alors, à Chantilly, on a une contrainte, c'est celle du testament du duc d'Aumale, lorsqu'il a légué à l'Institut de France en 1884, sa collection, il a souhaité que ses collections soient présentées en permanence au public sans qu'on puisse modifier son accrochage, sa présentation. Donc nos miniatures, nous les présentons aujourd'hui dans le cabinet des Gemmes, à l'endroit où il les avait disposées, avec un système d'éclairage renforcé qui fait que le cabinet des Gemmes n'a aucun éclairage naturel, pas de rayon ultraviolet, pas de rayon infrarouge du tout, un éclairage artificiel très faible qui sert uniquement aux visiteurs à accéder à la salle et lorsqu'ils sont devant les vitrines, les vitrines donc déclenchent un éclairage de visite ponctuel qui va s'éteindre lorsqu'il n'y a plus de visiteurs dans la salle. Donc ça, ce sont les systèmes internationaux qu'on met aujourd'hui en place pour protéger les miniatures des atteintes de la lumière. Mais il faut reconnaître que dans le passé, nos miniatures ont beaucoup souffert, puisque le duc d'Aumale les présentait lui-même en lumière naturelle. Et elles ont été exposées pendant pratiquement tout le 19e et une partie du 20e siècle, avant que ces mesures techniques de conservation ne soient prises. Donc elles ont pâli. Alors ce qui est assez vérifiable, notamment sur des miniatures double face, nous en avons deux. C'est une technique très particulière qui est liée surtout à l'Italie et à la cour des Bourbons-Siciles, donc qui est la famille de la reine Marie-Amélie et de la duchesse d'Aumale, qui est aussi une cousine germaine du duc, puisqu'on se marie entre cousins à l'époque. Et donc à la cour de Naples, il était fréquent de réaliser des miniatures recto verso. Donc vous avez d'un côté le visage de la jeune femme, et puis à l'arrière, donc le dos, l'habit, le cou. Et on voit bien que la miniature a beaucoup souffert sur la face de l'exposition à la lumière. Alors ça, c'est irréversible. Les autres dégradations que peuvent subir les miniatures, fort heureusement, elles peuvent être restaurées. Et c'est le cas de la collection que nous présentons aujourd'hui à Chantilly, puisque grâce aux amis du musée Condé, qui soutiennent donc la restauration de la collection depuis de nombreuses années, depuis plus de 30 ans, 35 ans aujourd'hui, eh bien, la collection des miniatures du duc d'Aumale a été entièrement restaurée depuis ces 3 dernières années. Et à l'occasion de les expositions, donc nous les présentons parfaitement restaurées au public. La restauration a été menée par Bernd Pape, qui est un restaurateur d'origine suisse, qui travaille également pour le musée du Louvre et pour la plupart des grandes collections européennes. Il a travaillé sur des collections anglaises, sur les collections hollandaises, sur des collections allemandes également. Et donc il est venu restaurer cette collection de Chantilly, qui présente, comme la plupart des miniatures en Europe, des dégradations très typiques, ce qu'on appelle des verres pleureurs. Nos miniatures, donc qui sont peintes à la gouache et à l'aquarelle, pour ne pas se dégrader, étaient protégées dès le XVIIe, XVIIIe siècle de petits verres bombés. Ces petits verres, donc, qui sont composés de silice et de potasse, n'étaient pas complètement stables. La formule chimique n'était pas complètement maîtrisée. Et il arrive que cette dégradation naturelle de la silice et du potasse sur des verres anciens vont créer des gouttelettes d'acide qui vont apparaître à l'intérieur du verre. C'est ce qu'on appelle le verre pleureur, des petites gouttes qui peuvent se mettre à ruisseler à l'intérieur du verre, voire atteindre la couche picturale, ce qui évidemment les dégrade de manière irréversible. Donc il faut intervenir, retirer ces verres anciens, les nettoyer bien sûr. Alors aujourd'hui, on ne sait pas les traiter et on les remplace par des verres modernes et puis on les conserve. Si un jour on sait traiter cette dégradation naturelle du verre ancien, on pourra toujours les replacer. Mais pour l'instant, ce sont des verres modernes, des verres parfaitement stables, neutres, qui sont placés sur ces verres, sur ces miniatures, pardon, et qui les protègent. Donc ça a été une longue opération que de traiter en priorité donc les œuvres qui étaient vraiment urgentes parce qu'elles risquaient donc d'avoir ces atteintes de la couche picturale dues à l'acide des verres pleureurs. Et puis ensuite, on a réintégré, on a refixé les écailles des peintures qui pouvaient soulever, car la miniature, c'est une peinture comme une autre. Donc elle présente les mêmes altérations que peut présenter toute peinture à l'huile, à la gouache, à l'aquarelle, etc.
Qui restaure ces miniatures à...
Alors, il nous faut des restaurateurs diplômés, bien sûr. En l'occurrence, le restaurateur de la collection, Bernd Pape, qui est d'origine suisse, nous a été recommandé par le Centre de recherche et de restauration des musées de France. Mais c'est vrai que la technique de la restauration sur ivoire est assez spécifique et qu'il n'y a pas beaucoup de restaurateurs spécialistes qui les traitent.
C'est lui qui l'a
traité. Oui, c'est lui qui a traité l'ensemble de la collection. Nous avons aussi quelques pièces, et notamment les miniatures sur cuivre.
C'est un véritable virtuose.
Oui, c'est vrai. C'est aussi un artiste sur miniature, et c'est vrai. Puisqu'il faut aussi au restaurateur une grande humilité. Il faut qu'il traite la miniature, quelquefois en complétant les parties lacunaires, en essayant d'avoir la même technique que l'artiste qu'il vient remplacer, en quelque sorte, dont il vient compléter l'œuvre. Donc c'est aussi un travail d'humilité que ce travail de restauration.
Alors ça a été aussi l'occasion de faire un catalogue.
Oui, ça a été une opération complète. On a restauré, on a publié et on a exposé. Ce qui est le cheminement naturel lorsqu'on fait une exposition qui se veut un peu scientifique.
Alors vous avez signé un très beau catalogue avec Nathalie Lemoine-Bouchard et Bernd Pape, qu'on vient d'évoquer, édité par les éditions d'Ars Amogi. Effectivement, là, on a d'abord toutes les reproductions des miniatures exposées, mais on a aussi toute l'explication sur cet art.
Alors, toutes ces miniatures, oui, sont reproduites en couleur. Donc, il y a 345 pièces dans la collection du Duc d'Aumale. Nous les avons toutes étudiées. Alors, en les reproduisant quelquefois à l'échelle exacte, lorsque nous pouvions le faire, et notamment pour les pièces de petite dimension, à part les quelques pages d'introduction sur la technique où on a délibérément agrandi, on a souhaité, selon l'habitude des spécialistes de la miniature, reproduire donc les œuvres aux dimensions pour lesquelles elles étaient faites pour être vues par l'artiste, pour ne pas trahir non plus la technique de l'artiste. Et quelquefois, malheureusement, il a fallu les réduire lorsqu'il s'agissait de choses un petit peu plus grandes. Et donc, chacune de ces miniatures, on les a étudiées donc à trois mains. Donc, avec Bernd Pape, qui est spécialiste de la miniature, notamment sur ivoire, qui a vu énormément de collections en Europe, puisqu'il les a restaurées, qui a un œil aussi de spécialiste. Et avec Nathalie Lemoine-Bouchard, qui est spécialiste de la biographie des miniaturistes, puisqu'elle va publier prochainement un dictionnaire des miniaturistes européens, qui sortira l'année prochaine. Et d'ailleurs, tous les trois, nous organisons les 10 et 11 octobre prochain un colloque scientifique où on va réunir les spécialistes de la miniature. Parce que c'est vrai que la miniature, pour moi, ça a été un petit peu une découverte. Moi, je suis plutôt spécialiste de peinture des 17e, 18e siècle. Donc, j'ai aidé un peu mes collègues dans le catalogue pour la partie historique, pour bien connaître les provenances des miniatures du Duc d'Aumale, comment la collection s'était constituée. Et puis, j'ai découvert un monde totalement fascinant. Ce monde de la peinture en petite dimension, de la peinture sur ivoire, de la peinture sur émail, et ça nous a donné envie d'aller plus loin et de réunir autour de ce catalogue scientifique qu'on a quand même mis 3 ans à réaliser, avec donc Bernd Pape qui lui est helvète et qui se trouve donc à Berne en Suisse, ma collègue Nathalie Lemoine-Bouchard qui elle pour des raisons personnelles vit hors de France puisque son mari est diplomate. Donc à nous trois on a réalisé ce catalogue et on s'est dit il faut aller plus loin, il faut faire un événement scientifique à Chantilly autour de la miniature en faisant venir alors des spécialistes du monde de la miniature des quatre coins de l'Europe. On a la chance d'avoir avec nous Vanessa Remington qui s'est occupée des collections de la reine d'Angleterre à Londres, Robert Kyle qui a publié déjà dans un catalogue assez comparable au nôtre, du moins c'est notre souhait qu'on puisse égaler ce catalogue majeur sur les collections des Habsbourg de Vienne. On aura aussi Marieke Plitoff qui nous vient de Hollande, qui nous vient des Pays-Bas et du palais de Het Loo, et qui a publié, il y a quelques années, la collection de la Reine de Hollande. Donc des grandes collections européennes, assez comparables en fait à la collection oui. du Duc d'Aumale, puisque la particularité de ces grandes collections européennes, ce sont des collections de cour qu'elles vont hériter, donc des miniatures acquises par les souverains au cours des siècles, et que donc on va avoir une véritable généalogie des familles princières sur plusieurs générations. C'est le grand intérêt de la collection du Duc d'Aumale, c'est ce qu'on a voulu mettre en évidence dans ce colloque et dans ce livre.
Alors, c'est pas évident d'hériter de tous ces portraits, parce que parfois, les sursauts de l'histoire font que c'est dangereux de conserver une miniature
oui,
sur soi.
Notamment à l'époque révolutionnaire, oui. en France, on a d'ailleurs deux miniatures assez amusantes de Pierre-Joseph Sauvage, qui représentent les portraits des rois Louis XVI et Marie-Antoinette. Alors, ces portraits, ils sont réalisés un petit peu à la manière des camées. C'était une technique qu'avaient souvent les miniaturistes à l'époque néoclassique, donc à la fin du XVIIIe siècle ou au tout début du XIXe siècle. Ils représentaient leur modèle un petit peu comme si c'était une pierre fine, une pierre taillée, comme ça se faisait dans l'Antiquité. Mais en fait, il s'agit de miniatures peintes. Et donc, ces deux portraits du roi et de la reine Louis XVI et Marie-Antoinette, ils ont une histoire particulière parce qu'ils ont été réalisés aux Tuileries en 1792, donc au moment de la chute de la monarchie, un moment où il était dangereux pour un artiste comme Pierre-Joseph Sauvage de réaliser ses portraits. Alors, Pierre-Joseph Sauvage, c'est un artiste qu'on connaît bien à Chantilly, puisqu'il avait travaillé pour les princes de Condé, notamment pour le décor du théâtre de Chantilly, qui a été détruit malheureusement à la Révolution. Et lorsqu'en 1814-1815, les Condés sont venus en France, eh bien, ils avaient entendu de mauvais bruits sur Pierre-Joseph Sauvage. Ils avaient entendu qu'il s'était un petit peu rallié trop vite au mouvement républicain, au mouvement révolutionnaire. Il lui battait un peu froid. Alors Pierre-Joseph Sauvage, pour se disculper, a adressé une très belle lettre qu'on a dans les archives de Chantilly aujourd'hui, qui a été publiée par Gustave Macon, le premier conservateur du musée Condé, dans les années 1900-1930. Et donc, il lui a envoyé, en 1815, aux princes de Condé, ces deux miniatures en disant « Voyez, Monseigneur, j'étais encore en contact avec le roi Louis XVI, avec la reine Marie-Antoinette en 1792, au moment où c'était vraiment un danger pour moi. » Donc, c'est rare qu'on ait autant de détails sur l'histoire et la datation de miniatures qui sont signées, en l'occurrence, et datées par Sauvage. Ce qui était un risque énorme que prenait l'artiste en ces années révolutionnaires.
Alors, on voit effectivement tout le travail que vous avez fait autour de ces miniatures, par leur sélection et par le catalogue raisonné que vous avez publié.
Alors oui, effectivement, dans chaque notice, on a essayé de retracer la vie du personnage, voilà. Situer un petit peu à la fois en tant que personnage historique, parce que c'est vrai que c'est une grande promenade au sein de l'histoire de France, hein, avec la collection. On a les rois français depuis le XVIe siècle, on a Henri II, on a François Ier, on a Henri III, Henri IV, Louis XIV, bien sûr, jusqu'à la fin du XIXe siècle. Oui. Donc on parle bien sûr du personnage. On essaie aussi de retracer le lien avec Chantilly, avec les Condés ou avec le duc d'Aumale, bien sûr, avec les Orléans. Et puis, on a cherché évidemment à repérer les attributions, à essayer de clarifier des attributions qui avaient été quelquefois portées un petit peu généreusement au XIXe siècle. Donc on a fait une critique des attributions anciennes. Et puis on a évoqué aussi dans une dernière partie, qui était plutôt le fait de Nathalie Le Moine-Bouchard, les biographies des miniaturistes, parce que ce sont des personnages en général assez peu connus. Hein. Ce sont des artistes de très grande qualité, comparables aux artistes plus connus, mais peut-être du fait de la petite dimension de leur production, eh bien, ils ont échappé à la mémoire. Ils sont souvent tombés dans l'oubli.
À l'époque, ils devaient être très connus, au
contraire. Oui, ils étaient très courtisés. Effectivement, ils avaient des carnets de commandes qui étaient très, très riches. Il fallait faire la queue à la porte de certains artistes, comme Jean-Baptiste Augustin, pour avoir son portrait. Jean-Baptiste Augustin, qui a réalisé le superbe portrait de Madame de Gramont-Cadrousse, qui fait la couverture du catalogue,
qui est magnifique.
Qui est une œuvre majeure. C'est une petite tabatière avec un portrait féminin qui s'inspire d'un magnifique modèle de Madame Vigée-Lebrun, une jolie jeune femme du XVIIIe siècle.
Une miniature ronde, elle n'est pas si petite d'ailleurs.
Oui, elle fait quelques centimètres.
Vous avez également, dans le parcours de l'exposition, qui est divisé en trois parties à peu près.
Oui, on a un secteur effectivement qui est consacré à ce qu'est la miniature. Donc deux vitrines expliquent les fonctions que peut revêtir la miniature à différentes époques. Donc les boîtes, les tabatières, les petits bijoux, bracelets, pendentifs, broches, plaques de bracelets ou de ceintures, boîtes à mouches, tabatières pour les messieurs. Avec une tabatière amusante, on en a une, probablement celle du prince de Condé, j'imagine, qui représente sur toutes ses faces et même à l'intérieur le site de Chantilly et puis des plans de la forêt, au cas où on se perde en forêt au cours des séances de vénerie, puisqu'on chassait beaucoup à court, évidemment, en forêt de Chantilly. Alors peut-être la prêtait-on, l'offrait-on aux visiteurs de Chantilly qui venaient chasser en Chantilly, comme on disait, de façon à ce qu'ils retrouvent leur chemin s'ils s'étaient égarés à la suite du cerf. Donc deux vitrines consacrées à la fonction de la miniature. Il y a une vitrine aussi consacrée au sens affectif et personnel que peut revêtir l'objet, ce qu'on a évoqué avec les souvenirs en cheveux, avec les portraits des êtres chers, parfois disparus, parfois au loin. en raison de la guerre, en raison des vicissitudes, des voyages qui ont pu séparer les amants, exils. Les amoureux, les exils aussi, bien sûr. On a plusieurs vitrines qui sont consacrées aux techniques. Techniques de l'émail, techniques de l'ivoire. Autre technique, hein, parce qu'on a des techniques encamées qui évoquent donc les techniques antiques. On cherche à se rattacher à la tradition de l'antiquité classique, avec des camées qui sont quelquefois pas vraiment des pierres taillées, mais qui peuvent être simplement de la porcelaine, des pièces qui vont être cuites à haute température dans des fours, comme à la porcelaine de table, par exemple. On peut avoir également des techniques qui se rapprochent plus de l'art du dessin. On a une petite chose amusante dans les techniques avec un portrait par Harry Schaeffer, le grand peintre romantique, du duc d'Aumale enfant. Il était en effet, Harry Schaeffer, le professeur de dessin des enfants de la famille d'Orléans. Et au cours d'une séance de dessin, l'un des enfants fait une tache d'encre bleue sur un sous-main. Eh bien, à partir de cette tache, Harry Schaeffer va, par gageure, par esprit de compétition, essayer de brosser le portrait du duc d'Aumale. Et c'est assez réussi, on reconnaît bien l'enfant, il a une dizaine d'années. À partir de cette tache, il va constituer tout un portrait qui va nous représenter les traits du jeune prince. C'est assez amusant. Donc, des techniques très variées, très diversifiées. Et puis ensuite, une grosse partie de l'exposition, bien sûr, est consacrée à la généalogie. Donc, on a plusieurs vitrines consacrées à la généalogie des rois valois, des rois de Bourbon, bien sûr.
Avec les portraits.
D'Henri II, Henri III, Henri IV, Louis XIII, Louis XIV, tous les souverains. Alors, on s'est amusé à reconstituer des généalogies. On met le roi et la reine côte à côte, même si les dimensions des miniatures sont quelquefois assez différentes. Les enfants sont placés en dessous des parents, comme sur un véritable arbre généalogique. Et puis, nous avons également la famille de Bourbon-Condé, bien sûr, qui est propriétaire de Chantilly jusqu'en 1830, avec de magnifiques portraits du grand Condé lui-même, d'après Juste d'Aiguemont, de son frère le prince de Conti. On a un véritable bijou, c'est une miniature d'assez grande dimension, avec un revers d'écaille, avec tout un encadrement d'or et de pierreries, de pierres précieuses. C'est assez fréquent que la miniature revête cet aspect.
Alors, parmi ces objets de luxe et ces œuvres d'art, il y a un objet complètement contemporain, il y a des ordinateurs à la disposition du public.
Tout à fait. On est...
Une pointe de modernité.
Oui, une pointe de modernité qui accompagne aussi le travail scientifique qui a été fait autour de l'exposition. On a souhaité que le grand public puisse accéder à l'exposition à distance, avec Internet, c'est aujourd'hui devenu possible. Et on a, grâce à Vox in the Box, réalisé donc des systèmes d'audio-guide, alors qu'on peut télécharger sur Internet et emporter avec soi pour une visite de l'exposition quand on vient à Chantilly, par exemple. Mais aussi, on peut découvrir sur son écran d'ordinateur en allant sur notre site ou sur le site de Vox in the Box ou donc sur châteaudechantilly.com. On peut découvrir un parcours de l'exposition à travers 50 miniatures qui sont plus particulièrement étudiées et donc reproduites. Si on est sur ordinateur, on peut accéder bien sûr à l'image et d'assez grandes dimensions, voire même parfois agrandie de l'objet. Et ça nous raconte un petit peu ce qu'est la miniature et les plus belles œuvres en fait, qui sont présentées dans l'exposition. Donc c'est une sélection qui, j'espère, permettra de faire connaître l'art de la miniature à longue distance.
Et oui.
C'est une fonction d'Internet qu'il ne faut évidemment pas négliger. Alors il y a des ordinateurs présents dans la salle, évidemment. On peut aussi les télécharger avant de venir.
Surtout pour rappeler qu'on peut les revoir chez soi et puis le faire découvrir à d'autres.
Absolument. Ça vient aussi en complément des bases de données qu'on peut développer, puisque la collection de miniatures est déjà présente sur le site du ministère de la Culture, www.culture.gouv.fr, base de données Joconde, où toutes nos miniatures sont déjà reproduites et étudiées.
Et dernier point, vous avez fait un effort particulier en direction des enfants, en créant aussi des petits parcours.
Oui, il y a des parcours pour enfants, notamment autour de la famille royale, bien sûr, de la famille royale de France, et puis autour de la famille d'Orléans, qui étaient les propriétaires de Chantilly au temps du duc d'Aumale. Donc on cherche à rendre sensible aux jeunes enfants la notion de généalogie, la notion de famille, puisque ces miniatures, ce sont évidemment des collections familiales sur plusieurs générations. Donc on fait travailler les enfants sur ce thème, avec des parcours pédagogiques donc, qui sont réalisés par notre service éducatif.
En conclusion, Nicole Garnier, quelles sont les miniatures qui ont votre préférence ?
Alors ce sont peut-être un type de miniature très particulier. On dit que l'œil, c'est le miroir de l'âme. Et au XIXe siècle, il est très fréquent que les miniaturistes représentent les yeux et l'œil seul du personnage qu'il veut représenter. Nous en avons 5 dans la collection et je suis particulièrement attachée à l'œil du duc d'Aumale, bien sûr, l'œil de Henri d'Orléans, qui a fait la collection de Chantilly. Et c'est peut-être celle-là que je préfère de toutes.
En conclusion, Nicole Garnier, merci pour ce voyage dans le temps et dans les cours royales et impériales de France et d'Europe. Retournons à nos appareils numériques, à nos ordinateurs, à nos petites photos qu'on place sur nos portables. C'est beaucoup moins beau et ce ne sont pas encore des œuvres d'art, mais qui répondent aujourd'hui au partage de ces images un peu intimes. Alors je vous donne à tous rendez-vous au Musée Condé à Chantilly pour découvrir cette exposition du mercredi 19 septembre
au dimanche 6 janvier inclus.